France Culture.
Ladies and gentlemen, je peux vous l'avouer, à 12 ans, j'ai enculé un canard. Errol Flynn, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Jean, qui on l'aura compris, renouera ce soir avec ses fondamentaux en fêtant à son de synthé les 10, oh, 12, ouais, 13 ans, on ne sait plus, des éditions Séguier en recevant son bon ange et directeur littéraire, animateur Jean Le Gall. Séguier, ultime exemple du dandysme éditorial et du mauvais genre esthétique où se croisent Helmut Berger ou Antonin Artaud, Jacques de Bacher ou Robert Penn-Warren, Arnaud Brecker, Yves Adrien ou Patrick Eudlin, véritable cabinet de curiosité que nous fera également visiter un de ses amateurs les plus résolus, le compositeur, arrangeur et producteur Bertrand Burgala. Chronique en second temps d'émission signée Esther Teillard et Chaude Rose. Rassurez-vous, aucun canard ne sera malmené pendant l'émission, rien que l'animateur, mais il aime ça, et le conformisme adipeux et l'ennui somnolent, mais eux, ils sont là pour ça. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Il y a longtemps que Mauvais Genre, que ce soit Laurent Polleret qui en est fan, que ce soit votre humble serviteur, ou nombre des chroniqueurs de cette émission souhaitent rendre hommage à une maison d'édition qui rassemble dans son catalogue à peu près tout ce qu'on aime en matière de cinéma, de musique, de mémoire, de littérature, de style, à la fois le camp, le dandysme, l'insolence, la violence, l'aventure, j'en passe, et des plus velus. C'est Séguier, les éditions Séguier. Les éditions Séguier se résument, pour pas dire qu'elles se résument à un homme, mais enfin en tout cas elles tiennent énormément à un homme, qui est Jean Le Gall. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean Le Gall, Séguier, c'est votre affaire depuis combien de temps ?
Depuis 2013.
2013, donc c'est les 12e anniversaire, j'ai enfin la réponse à ma question.
Exact.
J'ai envie de vous demander ce que vous faisiez à 12 ans.
Ce que je faisais à 12 ans, je passais du temps dans les magazines, je lisais beaucoup de magazines. Voilà, peu de romans.
Mais quel genre de magazine, ce magazine,
tiens. Alors ça va vous surprendre, cher François, mais je lisais beaucoup de magazines qui, à l'époque, concernaient le jeu vidéo. Le jeu vidéo, à l'époque, repose sur une technologie très faible, mais également sur requiert. Évidemment, c'est la contrepartie de ces graphismes très moches de l'époque sur l'imaginaire de ceux qui jouent aux jeux vidéo. Et donc, j'employais un imaginaire particulier, je le mobilisais pour jouer aux jeux vidéo. Et ces jeux vidéo de l'époque référaient souvent à la littérature et au cinéma. Et par exemple, parmi les grandes revues de l'époque, il y en avait une qui citait tous les mois Lovecraft. Vous voyez le Panthéon noir de Lovecraft.
Le Cthulhu.
Exactement. Eh bien, au début des années 90, ça renvoie très vite, par exemple, un certain Michel Houellebecq. Et donc, voilà, on tire un peu le fil, et c'est un peu ce que je lisais, en tout cas à l'époque.
Très bien, bon, on va savoir encore un peu plus sur vous, Jean Le Gall, tout au long de cette émission, au travers de Séguier et de son catalogue, dont un des lecteurs les plus fieffés, c'est vous. Bonsoir, Bertrand Burgala.
Bonsoir, François Angeline.
Bienvenue à Mauvais Genre. Qu'est-ce qui vous a attiré vers Séguier, là ? Qu'est-ce qui fait que vous avez, avec cette maison d'édition, vous qui êtes un grand littéraire, vous qui avez travaillé avec Houellebecq, adapté Baudelaire, qu'est-ce qui fait que Séguier vous captive à ce point ?
Ah ben c'est tout à fait instinctif, c'est que c'est enfin il y a énormément de livres à leur catalogue quand je le regarde, non seulement que j'ai envie de lire mais que je lis et que je termine avec beaucoup de plaisir. C'est pas une ce que je trouve très très intéressant, c'est qu'il y a aucune pause justement. On parle de dandysme mais il y a aucune posture, c'est je pense que Jean édite des livres qu'il a envie de lire. Et que d'autres en se disant que d'autres personnes auront envie aussi de les lire. Et je trouve que c'est ça qui m'attire, et toujours avec des sujets que je connais pas justement nécessairement, mais je trouve que c'est vraiment réjouissant, et c'est il y a énormément de livres que j'adore, que j'offre, j'achète beaucoup de livres Séguier.
Très bien, ben on va en découvrir deux, je dis pas lesquels bien sûr, mais que vous avez choisi tout particulièrement. Présent également avec moi ce soir, Esther Teillard, bonsoir.
Bonsoir François.
Alors ce soir, la chronique sera
La chronique sera Descente à Baïa de Mathieu Peck, un,
un roman rempli d'ivresse et de moiteur à Salvador de Bahia.
Très bien, ben rendez-vous à Bahia. En fin d'émission, à votre droite, il y a Sean Rose, qui est aussi un amateur de Séguier. Mais alors, Séguier, on va s'en rendre compte, le compas est très, très largement ouvert, puisque j'évoquais Helmut Berger, etc., et puis Rolfine et tout ça, mais ça va jusqu'au XVIIe siècle spirituel. Vous allez nous parler de qui, vous, Sean ?
De Jacques Esprit, donc, qui a écrit « La fausseté des vertus humaines ». Donc voilà, un janséniste pur jus.
Voilà, vous éditez aussi les jansénistes, Jean Le Gall.
Ma foi, celui-ci est très moderne.
Voilà, très bien. Bon, on verra, on va voir un petit peu avec Sean en quoi il est moderne. En attendant, eh bien, c'est l'heure de passer la parole à Laurent Polleret, à qui on a demandé, ma foi, eh bien, Séguier pour vous, c'est quoi ?
Yves Navarre, est-ce que ça vous énerve quand on dit que vous êtes l'écrivain d'un seul thème, l'homosexualité ?
Ah oui, ça, oui. Le mot d'homosexualité ne m'énerve pas, il me gêne parce que ce sont les autres qui le rendent gênant. Je suis un écrivain d'une sensualité, d'une sensualité qui m'est propre, qui est dans ma nature, et puis je suis avant tout et tout simplement un écrivain qui se... On a voulu m'étiqueter écrivain homosexuel, disons que je suis écrivain, et par ailleurs, dans la vie, j'ai une sensualité qui me fait vivre une vie que d'autres trouvent différente.
Voilà, préparez vos mouchoirs, 1977.
77, sortie 78.
Sortie 78, tournage 77, comme on dit en Belgique. Je dis ça parce que vous reprenez cette expression dans La vedette du quartier, le livre qui sort chez Segers. Il y avait eu la pièce, je vous avais invité.
Segers,
c'est la poésie. Parce qu'écrire, ça c'est votre truc maintenant. Hein.
Ouais, j'aime bien, ouais. Enfin, j'aime
même
bien.
Que c'est ça qui vous a sauvé.
Je pense, oui. J'ai eu deux sauvetages dans ma vie. Enfin non, on a tous plein de trucs qui nous ont sauvés. C'est des grands mots, mais c'est vrai que quand j'ai arrêté la défense... D'abord, j'ai arrêté de me défoncer. Et puis très vite, ma vie d'avant ne me suffisait plus. Il y avait un truc et j'étais assez insatisfait. Bon, j'étais content, hein, j'avais des potes, j'avais une nouvelle vie. Mais petit à petit, j'ai commencé à...
Il y a un truc qui manquait.
Ouais. Et quand j'ai réussi à me mettre à écrire, là, c'est... Un univers s'est ouvert devant moi.
Quand tu dis que dans un article que Taxi Girl c'était de la pop acidulée, tu dis quoi ?
Je suis revenu un petit peu sur mes positions. C'est vrai qu'à un moment je voulais aller plus loin, quoi. Et puis on était forcément fait des compromis parce qu'on était 5, plus le manager 6. Mais non, en fait, je pense que c'était pas si acide. Enfin, c'était bien acide. Ouais, c'était de la pop acide.
Choisi, harmonisé par Laurent Polleret, Yves Navarre, Riton Liebman et Daniel Darc, Jean Le Gall. Ça fait trois moments de votre catalogue.
Oui. oui, bah, là encore, c'est difficile de trouver un point commun systématique à tous les sujets d'un catalogue. Je rappelle qu'un éditeur, c'est quelqu'un qui se distingue autant par ce qu'il ne publie pas que par ce qu'il publie. Et donc, qu'est-ce que l'on retient ? Pour quelles raisons ? Voilà, on peut en parler, mais à l'évidence, les trois que nous venons d'entendre cochent beaucoup de cases, des personnages très intéressants qui rejoignent régulièrement le catalogue Séguier, des gens qui ont une conception assez aiguë de la liberté. On peut pas dire qu'ils se soient comportés comme de bons gestionnaires ou des bourgeois. Ils ont même pour certains tout raté activement, et néanmoins ils ont laissé derrière eux quelque chose qui ressemble à une œuvre mésestimée, méconnue, mévendue parfois. Et le rôle que peut se trouver, en l'occurrence moi, un éditeur, c'est d'essayer de les sortir de là où ils sont, de l'oubli, du mépris.
Donc les gens qui ont mis leur génie dans leur vie, vous êtes là pour leur offrir la chance d'un livre et d'un propos un peu durable ?
J'aimerais que, en tout cas, oui, ça soit une mission réussie, au moins en cours, sachant que Il faut être clair, les grands génies, les génies incontestables de leurs arts, ils vivent déjà parmi nous et tant mieux. Il n'y a pas eu, je crois, de malentendu suffisamment fort pour éteindre totalement la voix des œuvres quand elles sont géniales. Mais il y en a d'autres qui sont juste en dessous, ils ont raté une marche, ils ont manqué de chance, ils sont passés par la fenêtre, au propre comme au figuré. Et voilà, et bien Séguier, c'est un refuge, un bestiaire, c'est un endroit où ils ont la possibilité de revivre un peu.
Bertrand Burgala, vous co-signez ces propos de Jean Le Gall, c'est pour ceux qui ont raté une marche hein, qui...
Pas forcément. C'est-à-dire, bien sûr que c'est, il y a un côté réparation parfois. C'est-à-dire de rendre justice à des personnages, à des écrits, à des œuvres. Mais parfois, ce qui est, je trouve qu'on s'habitue à la qualité aussi parfois, parce que finalement, je trouve qu'il sort des écrivains que je trouve absolument extraordinaires d'aujourd'hui, parce qu'il y a de tout chez Séguier. Mais il y a quelqu'un comme Jean-Pierre Montal. Pour moi, c'est un romancier vraiment, vraiment de premier plan, et qui a jusqu'au début, il a un peu souffert du fait d'être lui-même éditeur. Il y avait un côté Dominique Doroux, un peu intimidé par l'écriture.
Auteur et éditeur, et cahier de l'air.
Montal avait créé les éditions Rue Fromentin. Mmh. Et c'est lui qui a fait découvrir Patrice Jean et d'autres écrivains. Mais Montal, en tant que romancier, par exemple, c'est vraiment quelqu'un, enfin, depuis les années Foch, leur chamade, c'est des livres vraiment formidables. Et c'est pas du tout étonnant qu'ils s'entendent bien avec Jean Le Gall. Et c'est vrai que dans son équipe, maintenant, il travaille avec... Il y a 10 ans, un essai sur le diabète à l'initiative d'un éditeur freelance, Mark Einstein, qui est vraiment un homme remarquable. Et je les ai présentés, et tout de suite, le courant a passé entre eux. Ils font des projets ensemble, et ça ne m'a pas du tout étonné.
Alors Jean Le Gall, vous êtes Séguier depuis 2013, hein, je le répète. Avant, on va voir un peu ce que vous avez fait, puisque vous ne venez pas directement du milieu de l'édition, de l'écriture ou des beaux-arts. Vous étiez au départ juriste, avocat d'affaires, et il y avait quand même en vous le démon de l'édition, c'est ça ? Vous étiez installé à New York, et c'est une ville qui ne vous rate pas sur ces questions-là, quand on a des désirs culturels. Et comment s'est un peu passé votre évolution par rapport à votre premier métier à l'édition ?
Je dirais qu'au contraire, il s'est rien passé. C'est-à-dire que j'étais une sorte de... J'étais atteint par un syndrome de Bartleby, c'est-à-dire que j'étais un... Oui, certes avocat, mais enfin bon, en tout cas quelqu'un, un employé, quelqu'un qui, vous voyez, Bartleby, il est clerc. Moi, j'étais une sorte de clerc, comme ça, de notaire.
Il préfère ne pas, lui.
Voilà, il préfère ne pas. Il préfère ne pas. Et donc, de la même façon, ben, j'étais sans cause, sans raison. Et puis, j'étais atteint, oui, d'une sorte de syndrome de réticence. Voilà, donc...
Le syndrome de réticence, c'est-à-dire que vous osiez pas, vous étiez...
Je préfère ne pas.
Voilà.
Voilà, la réticence. Et donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure à propos d'un éditeur. Eh bien, je préfère ne pas éditer celui-ci, celle-là, tel ou tel thème, etc. Et donc, faire des choix forts. Et voilà, cette vie-là s'est terminée en 2011 pour en commencer une nouvelle. Le temps de mûrir un peu mon projet... Et puis voilà, et Séguier était à ce moment-là un peu la maison idéale pour moi, une sorte de belle endormie je peux remonter un peu dans son histoire si vous le voulez, mais qui avait réuni des couleurs, des thématiques qui m'intéressaient énormément. Alors Séguier, pour rentrer dans le détail, c'est d'abord le nom d'une rue de Paris, une rue de Paris qui doit son nom donc à Pierre Séguier, on en parlera après, qui est un chancelier qui effectivement a protégé les intérêts d'un certain Jacques Esprit, que je viens de publier, vous voyez, comme tout est
sous contrôle.
En même temps cohérent, c'est fou. Hein. Et puis donc, Séguier a en fait une existence plus affirmée dans les années, au début des années 70, grâce à deux hommes, auquel bien sûr je rends hommage ce soir, Éric Haddad d'un côté et Michel Archimbault de l'autre, qui à l'époque qui à l'époque était en quelque sorte parrainé par Marcel Julien occupait des bureaux 3 rue Séguier, et puis il a proposé à cette époque-là à ces deux trentenaires de créer une maison d'édition, et Michel Archimbault et Éric Haddad ont immédiatement lorgner les thèmes des arts, de la musique, des biographies. Il s'était fixé vraiment, je crois, comme objectif, ils ne sont pas là pour le confirmer, mais de faire des biographies de référence. Alors, il y avait ce texte sur Georges Bataille qui avait été...
Je me souviens de tout ça. Puis effectivement, la biographie la grande biographie de Bataille, elle est parue chez Séguier. Il y avait aussi l'énorme biographie d'Octave Mirbeau. Il y a eu énormément d'anthologies d'Octave Mirbeau, de Barbey d'Aurevilly. Il y a eu les scénarios d'opéra non écrits, non aboutis, faits par Philippe Godefroy, Richard Wagner. Donc c'était une maison qui était déjà comme
comme ça, dans cette espèce de grande ambition intellectuelle, peut-être fin 19e, début 20e quand même.
Oui, qui plaçait la curiosité au-dessus des autres critères. Il n'était pas, les deux compères n'étaient pas, je crois, animés d'un souci de gestion très, très précise. Et donc, cette histoire-là, elle a duré jusqu'au milieu des années 90. Après, la maison a connu une période, on va dire, de déshérence, même si c'est dans cette période-là aussi que Jean de Palacio a fait un travail extraordinaire autour de la bibliothèque décadente, collection qu'il avait créée. On retrouvera des gens tout à fait fréquentables à faire lire dans les lycées, comme Catulle Mendès, Jean Laurent.
Oui, non, c'est des petits volumes mauves, oui, de textes fin de siècle parmi les plus capiteux et les plus vertigineux. Mm-hmm. Et si jamais vous en rencontrez un au détour d'un bac, d'un libraire ou d'autre chose, surtout achetez-le. Voilà, mais d'ailleurs, c'était un très bon prélude à ce que vous avez fait, Jean Le Gall.
Encore une fois, je l'espère, parce qu'une maison d'édition, même si elle a ses interruptions, elle a ce mot magique de ligne éditoriale, et j'ai essayé de la continuer.
Alors, on va se tourner vers Bertrand Burgala. Vous avez travaillé avec Houellebecq, entre Séguier et le label Tricatel, dont vous êtes le fondateur. Est-ce qu'il pourrait y avoir une sorte de parallèle possible? Un esprit commun, une électricité?
Je pense que quand je disais que Jean sortait des livres qu'il avait d'abord envie de lire, je pense que c'est peut-être ce que j'essaie de faire moi, c'est-à-dire de faire des disques que j'aimerais écouter, en espérant que d'autres personnes y seront sensibles. Donc, il y a la même chose. Après, on fait pas de biographie musicale. On essaie de. Quand on fait des disques, évidemment, c'est pas du tout le même procédé. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de liens avec des écrivains. On vient de sortir un disque d'Ingrid Cavan. Et ça fait 25 ans qu'on
alors,
fait des choses avec elle.
Et merci, puisque je suis fan d'Ingrid Cavan depuis à peu près 40 ans. Donc, honneur à vous.
Mais en tout cas de notre côté ce réflexe de se dire si je sors pas ce disque, il faut que ce disque existe, il faut que cette musique existe, et si je ne la sors pas, elle n'existera pas. Et si quelqu'un vient me voir et me dit il y a telle maison de disque qui est déjà intéressée, je vais lui dire allez-y. Mais voilà, nous on est là pour faire ce que les autres ne font pas.
Alors vous avez adapté les textes de Baudelaire, vous avez fait un disque
Baudelaire,
avec...
Baudelaire, je me souviens
si,
pas.
Si, j'ai entendu ça, parce qu'on peut...
Esdragon l'ont fait, oui.
Voilà, on peut, voilà, absolument, parce qu'on peut vous découvrir de manière précise et détaillée sur la voix nue que vous a consacrée France Culture. Mathieu Conquet était aux manettes. Vous avez été proche donc d'Yves Adrien, Jacques-Alain Léger, donc il y a toujours effectivement un romantisme éperdu et un peu vertigineux dans les personnages.
Je suis souvent mieux accueilli par les libraires, par les disquaires, parce qu'on a travaillé avec Jonathan Coe, Virginie Despentes a fait des paroles pour nous, et je trouve que c'est la joie aussi de faire de la musique, c'est que quand on fait de la musique, on travaille avec des personnes liées à l'image, parfois avec le cinéma, avec la littérature, avec la peinture aussi, et moi j'aime ces rencontres-là, bien sûr.
Alors, vous avez choisi deux livres dans le catalogue Séguier. Le premier que je vais entendre, c'est Alone de Mickey Baker. On en écoute un extrait, et puis après vous nous expliquez les raisons de votre dilection, Bertrand Burgala. Précision, Bertrand Burgala, sur ce qu'on est en train d'écouter, sur Mickey Baker.
Mickey Baker, là, ça rejoint... en fait, quand j'ai monté le label, je voulais pas du tout faire de réédition, mais les seules fois où je voulais rendre hommage à des grands anciens, c'était, si possible, de leur vivant. Donc on l'a fait pour André Pop, pour David Whittaker. Et très vite, donc le label a 30 ans maintenant, mais très vite, je me disais, il faut faire quelque chose sur Mickey Baker, qui est un des pionniers du rock, qui a fait et composé des standards pour Bo Diddley, qui avait fait des tubes dans les années 50 aux États-Unis, qui était arrivé en France dans les bagages de Dyke Turner, et qui était resté en France, où il a arrangé tout le monde en France, et vivait à côté de Montastruc, la conseillère, à côté de Toulouse. Et j'ai fait le siège de toutes les boîtes de production, parce que ça me rendait fou. Il y a 20 ans, il y avait encore tous ces pionniers qui étaient en vie. Et quand, je sais pas, quand Chuck Berry, Little Richard et Jerry Lee Lewis venaient jouer en France, personne n'allait les filmer. Alors que c'est comme si John Ford était venu sur les Champs-Élysées. Et Mickey Baker n'intéressait personne. Et vers 2008-2009, j'ai fini par trouver des... Non, même un peu plus tard, 2012 plus exactement, j'ai trouvé une jeune boîte de production qui était prête à faire ça avec moi. Je me dis, on va y aller, on va aller le filmer. Sauf que Mickey était déjà très, très fatigué et ça me semblait indigne de le filmer alors qu'il était vraiment mourant. Mais il m'avait remis le manuscrit de ses mémoires qu'il avait commencé. Il voulait encore achever les dernières années, raconter la suite. C'était en anglais. Et j'ai fait vraiment le tour de toutes les maisons d'édition. Mickey est mort peu de temps après. Personne n'en voulait. Et ça me semblait un livre vraiment extraordinaire et un témoignage capital. Et je m'en suis plaint. Finalement, j'ai une chronique de tous les mois dans Rock & Folk. Et des années après, je m'en suis plaint. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jean, parce que, alors que Jean n'est pas spécialement porté sur la musique, mais tout ce qui sort sur la musique est dément, parce que le livre sur Nico est formidable, celui sur Taxi Girl aussi, et donc c'est Jean qui l'a sorti, et il a fait un travail vraiment remarquable. J'avais demandé à Andrew Lou Goldham, qui était le premier manager des Stones, de faire une préface où il expliquait toute l'importance qu'avait eu Mickey Baker pour tout le rock anglais. La première fois que Paul McCartney reprend un morceau après les Beatles, c'est un morceau de Mickey Baker. Pete Townsend a appris la guitare sur la méthode de Mickey Baker. Et moi, ma première méthode d'arrangeur, c'était la
Donc
méthode de Mickey
un,
Baker.
Un Donc, remerciement.
Voilà. J'ai une énorme gratitude pour Jean qu'il ait pu faire ça et qu'il a trouvé un traducteur génial, en plus qui habitait à côté.
Qui habite à Toulouse, qui est prof là-bas à Toulouse. Mais c'est un texte formidable parce que c'est un texte qui d'abord passe en revue.
Yves Gabet. Oui.
Voilà.
Citons-le.
Qui passe en revue l'histoire américaine des années de Mickey Baker, donc, et qui fait le commentaire très précis de la ségrégation raciale qu'il subit. Mais il n'en parle pas comme un artiste tentant d'apitoyer le lecteur. Ce n'est pas sa démarche. Quand enfin il part en France et qu'il tente une carrière ici, c'est pareil, la modestie avec laquelle la chose est décrite est incroyable, sachant qu'au milieu de tout cela, il a des déceptions amoureuses qui le poussent à des tentatives de suicide successives. Et cette façon de se mettre complètement à nu et d'avouer sa solitude, d'où le titre « Alone », franchement, je crois que c'est assez inédit dans l'exercice de l'autoportrait.
Un extrait de Alone, donc les mémoires de Mickey Baker. Screaming Jay Hawkins était un sacré personnage. Il donnait les concerts les plus originaux que j'ai jamais vus. Les Coasters avaient mis au point un show vraiment bon, mais comparé à Screaming Jay Hawkins, ce n'était rien. Il incarnait un Dracula noir. Il arrivait sur scène avec des petites bombes qu'il lançait sur le sol et qui explosaient aussitôt en une coulée verte. Il agitait dans ses mains des maracas en forme de crâne et il était vêtu d'un smoking noir et d'une cape noire couverte de sang. Quand il arrivait dans une ville où il allait se produire, il commençait par aller dans le centre-ville pour louer un cercueil. C'est dans ce cercueil qu'il entrait en scène. Il était hissé par un fil très fin pendant que la musique faisait « Djoum didong, djoum didong, djoum didong ». Puis, il s'élevait lentement du cercueil et lançait ses bombes sur le sol tout en remuant ses maracas crânes et se mettait à chanter « I put a spell on you, I put a spell on you ». Les filles au premier rang hurlaient « Yeah !» Il obtenait toujours la réaction qu'il recherchait et secouait le public comme s'il s'agissait d'une seule personne. Les spectateurs étaient des adolescents. Le plus âgé devait avoir 20 ans à tout casser. Et c'était plus précisément des adolescentes. Après le spectacle, il rapportait le cercueil au croque-mort, mais personne ne voulait le reprendre parce qu'il était alors rempli de ketchup dont il s'aspergeait. Ces cercueils, c'était quelque chose, mais ça valait le coup d'œil. Oui, si on regarde, je dirais, la division musique du catalogue de Séguier après Mickey Baker, on a un peu une bonne vision de votre conception de l'édition et des livres que vous publiez, Jean-Luc Gall. Le dernier, c'est Patrick Heudlin, donc Perdu pour la France, qu'on a chroniqué ici même. Jean-Louis Murat est arrivé avant, mais si on regarde de manière un peu plus précise, on trouve Marc Minkowski, qui est un des grands chefs français de musique baroque, notamment qui a réveillé beaucoup d'opéras de Handel. Il y a Nico, dont on parlait avec Bertrand Burgala. Il y a Bobby Beausoleil. Alors, Bobby Beausoleil, il faut quand même dire que c'est un des membres de la Manson Family et qu'il a fait un certain nombre d'années de prison, si mes souvenirs sont bons.
Ah, oh, c'est un malentendu.
Pour assassinat, mais bon, les gens sont méchants. Et puis, comme c'est son centenaire, on va le citer, il y a Maurice Ravel. Et puis il y a « Comment Carmen, tu as Bizet » de Mario Bois. Donc on est véritablement dans le cabinet de curiosité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une logique historique, programmatique, esthétique, poétique. On a l'impression que c'est un chineur, une sorte de chiffonnier heureux qui revient avec le croc et le sac plein, c'est ça ?
Derrière les titres que vous avez évoqués, derrière le genre musical à chaque fois concerné, évidemment, et surtout, il y a une façon totalement différente de s'approprier les sujets. Si on prend le cas de Nico, c'est un texte, Bertrand y faisait allusion tout à l'heure, c'est un texte incroyable de quelqu'un qui s'est trouvé enrôlé un peu par accident dans une des dernières tournées de Nico et qui raconte franchement des scènes de musique très mal faites, enfin catastrophiques, des concerts qui partent mal. Mais oui, parce que le texte lui-même, oublions même la donnée musicale, Bertrand peut en dire un mot évidemment, c'est d'abord un texte qui, s'il avait été une fiction, m'aurait paru extraordinaire.
Bertrand Burgala.
Moi, je suis encore plus séguériste que Jean Le Gall. Parce que je trouve que le côté cabinet de curiosité, ça donnerait ça donne l'impression que c'est des choses un peu anecdotiques. Alors, c'est souvent viscéral. Et le livre sur Nico, pendant des années, je rêvais que quelqu'un le sorte en France parce que c'est un des plus grands livres sur la musique, parce que c'est pas les mémoires de quelqu'un dans sa période splendide. C'est vraiment l'envers du décor. C'est Nico dans les années 80 et c'est poignant et c'est la réalité qu'on vit quand on est, disons par exemple, en troisième division comme moi quand on tourne. On voit cette réalité-là et personne ne la décrit et ce livre est formidable. Et beaucoup des livres qu'on trouve chez Séguier, effectivement, ils évoquent des sujets très différents les uns des autres, mais c'est des livres vraiment souvent extrêmement viscéraux et importants en fait.
Oui, vous évoquiez à l'instant, en fait, le premier des titres que l'on a édité lors de la reprise de la maison d'édition, qui est le texte de Mario Bois. Mario Bois avait été le secrétaire de Stravinsky et de Nourrieff. Et c'est quelqu'un qui m'a raconté, comme personne d'autre et de manière dialoguée, c'est ce qui donne un texte assez spectaculaire, les derniers jours de Bizet. Et Bizet meurt. Pourquoi ? Parce que Carmen est un échec. qu'il en conçoit une amertume qui va lui être fatale. Il décide d'un bain d'hiver dans la Marne, mauvaise idée. Le rhume est là, bientôt donc la mort se signale. Et je crois que c'est quelques jours à peine avant de mourir, il reçoit la commande de Vienne qui va transformer la carrière de cet opéra et en faire le succès que l'on sait. Donc derrière ces histoires effectivement inscrites dans un décor musical, il y a à chaque fois un genre, une forme littéraire renouvelée, sachant que ce qui m'intéresse aussi, et là c'est le livre de Minkowski, c'est comment on fait une œuvre, comment on conçoit son travail quand on est un artiste. J'adore la fabrication de cela. Et là, je m'intéresse autant à la musique populaire qu'à la musique classique. Je m'intéresse à ça et je crois savoir, je crois comprendre que c'est une curiosité que j'ai en commun avec Bertrand.
Jean Rose.
Oui, ben, pour la maison Xeguet, que j'admire énormément, c'est que vous dites il n'y a pas d'esthétique, disons, construite, mais par vos... en fait, c'est la phrase de Cocteau, j'ai des dégoûts très sûrs, c'est que en creux, vous dessinez quelque chose et toujours ce ratage et ces secondes marches ou ces marches ratées, il y a quand même ce côté, comment dire, disons que vous essayez toujours avec style, c'est ça qui est le vraiment... je pense que ce qui lie tous ces livres, c'est le style. Et le style, le comment, c'est un style, c'est une manière, et le fond et la forme ne sont pas du tout, ce sont des vues d'esprit finalement, on est incarné par une forme. Et dans tous vos livres, que ça soit Un janséniste, ou La leçon d'élégance, ou Jacques d'Adelsvert Fersen, La soumise de Capri, ou Taxi Girl, il y a toujours cette idée de style. Et le style, c'est pas quelque chose de superfétatoire, c'est pas des breloques, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui vous définit vraiment, c'est un trait.
Écoutez, Jean Le Gall.
Je suis très très heureux d'être venu, très flatté. C'est effectivement.
Vous restez ?
Oui, je vais rester. C'est effectivement, oui, une caractéristique à laquelle je tiens énormément. C'est-à-dire que parmi les critères aujourd'hui employés pour éditer un texte, hélas, le style n'est plus du tout évoqué. Tout à l'heure, il y avait ce mot de dandisme. Moi, je le goûte peu. Je le goûte peu parce qu'aujourd'hui, il y a un emploi à profusion du dandysme et je flaire sur l'épaule du dandy un parfum de marketing et de prêt-à-porter.
Oui, mais ça, c'est l'excentrique, c'est pas le dandy.
Tout à fait.
Le dandysme, il est du côté de Jacques Esprit.
Tout à fait.
Il n'est pas du côté de...
Voilà. Et donc, le dandysme que vous évoquiez, François, c'est le dandysme, j'allais dire, originel. Effectivement, celui des non-alignés. Bon, voilà.
Et je voulais juste ajouter quelque chose quand vous dites... Ça me faisait penser à ce que disait Proust sur l'éloge de la mauvaise musique. C'est que la grande musique, tout le monde l'aime. Tout le monde va dire Proust c'est génial, Mozart c'est génial, les Beatles c'est génial. Ce qui définit votre goût, vous, singulier, c'est le fait d'aimer un tube que personne n'aime ou quelque chose que personne n'aime. Et cet essai de Proust sur l'éloge de la mauvaise musique nous définit en tant ce qu'on est parce que ça n'appartient qu'à soi. Parce que ça appartient à un souvenir qui est personnel et ça nous singularise.
Je sais, par un bonheur de proximité, vous venez également, de définir une sorte de critère pour Bertrand. Enfin, il me semble que... J'entends parler Bertrand, là, à l'instant. Enfin,
je trouve qu'on ne doit jamais avoir honte d'aimer ou de ne pas aimer quelque chose. Et c'est vrai que moi, je le vois souvent dans la musique. C'est très intéressant, par exemple, les critiques... quand elles disent, vous savez, trois bonnes raisons d'aimer quelque chose, parce que ça donne tout. Et ça veut pas du tout dire est-ce que j'ai aimé ce disque, par exemple. Mais c'est est-ce que ça fait bien ou pas de l'aimer. Et donc ces normes sociales en la matière, elles sont terribles. Ou quand on vous dit, vous savez, péché, les goûts honteux. Enfin, il y a des rubriques comme ça dans certains magazines. Et on se dit, mais c'est terrible parce que effectivement. Il y a parfois un côté statutaire, de statut social. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, ça m'est arrivé quelquefois de travailler avec des artistes très grand public. Et c'est extrêmement joyeux parce que le grand public ne fonctionne pas comme ça. Les gens qui écoutent Francis Cabrel, c'est parce que ça leur plaît. C'est pas parce que ça fait bien de mettre le disque sur la table basse, d'avoir le vinyle qui va bien, etc. Et ça, je trouve que cette spontanéité, elle est remarquable. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'en musique aujourd'hui, les artistes branchés, sont beaucoup plus éphémères que les artistes grand public. Ce qui est quand même assez amusant. Avant, on avait l'impression de l'artiste jetable. Mais vous regardez, les artistes qui sont vraiment très populaires, la plupart, ils font des carrières très longues en réalité.
Jean Le Gall.
Et dans le catalogue Séguier se trouve un texte qui s'appelle « Faire danser les gens » d'un certain Fred Rister.
Vachement bien.
Et Fred Rister, écoutez, a priori, c'était donc quelqu'un qui était à l'origine d'une musique appelée le Rodance, si je ne me trompe pas, hein, c'est un peu le genre, en tout cas, musical concerné. C'est pas du tout mon genre de musique, simplement ses écrits, son histoire, la manière dans laquelle il a mis toute sa vie dedans, sans être d'ailleurs lâché, abandonné par une certaine malchance qu'il a tenue, vraiment, on avait l'impression que Dieu le tenait en joue du début jusqu'à la fin. Fred a fait un livre incroyable où il raconte avec une probité formidable comment on fait des tubes et comment son plaisir ultime était de voir des gens danser sur cette musique.
Mais alors, justement, cette question de la mémoire, elle est quand même prédominante chez Séguier, parce qu'il y a des fois les souvenirs de personnes totalement inconnues. Alors, on découvre des témoins considérables des années 20 et des années 30, de personnages qui débarquent. Alors, on parlait de Dandy, là, personnages très étonnants, avec des souvenirs, des mâles cabines entières de souvenirs et de silhouettes extraordinaires qui déferlent. Il y a des gens qui ne veulent pas raconter leur vie et qui la racontent, comme Grace Jones. Il y a Richard Burton, qui découvre un jour, qui tient son journal de manière assez méthodique, et puis qui découvre un jour qu'on lui offre $1 million pour un mois du journal, et donc il se dit tout compte fait, ça peut avoir un intérêt. Il y a cette espèce d'épopée de la mémoire aussi chez Séguier, en permanence.
Vous visez juste, parce qu'effectivement, la mémoire, c'est quelque chose de très obsessionnel. Je me suis amusé, dans les quelques écrits que je commets à côté, de toujours glisser une phrase. La mémoire sort des hommes et les hommes sortent de la mémoire. Donc, effectivement, j'imagine que ce que je finis par choisir en tant qu'éditeur, un éditeur c'est une instance de jugement, je juge, je choisis, je retiens, avec une bande. Hein. Bertrand parlait tout à l'heure de mes amis, notamment de Jean-Pierre Montal. Voilà, je suis en discussion permanente à propos des textes qui finissent par rejoindre le catalogue. On ne fait jamais que 15 titres par an. Bref, dans ces livres-là, effectivement, la mémoire est toujours un enjeu central.
Alors la mémoire, il y a une mémoire que vous avez sollicitée, Bertrand Burgala, c'est celle de Riton Liebmann, la vedette du quartier.
Oui, et ce livre, je l'ai lu il y a quelques mois, alors qu'il est sorti, je pense, au printemps dernier. Et j'ai commencé à le lire, j'ai été captivé, justement parce que voilà quelqu'un qui raconte un itinéraire. Mais c'est la façon dont il le raconte qui est extraordinaire, et je trouve qu'il a une écriture. Je comprends pas qu'il ait pas eu tous les prix littéraires. Enfin, il y a des gens qui ont eu le Nobel pour moins que ça, je trouve. Je citerai pas de nom, mais vraiment, je trouve extraordinaire. Et on se dit, il est comédien. Et ce livre est génial.
Et drôle.
Ah ben, en voilà un extrait. Les lumières s'éteignent complètement et le film commence. Ça y est, c'est parti. J'ai chaud dans le ventre. Qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, il y a les scènes du début avec Devers et Depardieu quand ils sont avec Carole Laure. Elle fait des malaises parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle s'ennuie, elle va voir les médecins. C'est bien, mais c'est long. Je connais le scénario et je m'emmerde un peu. J'écoute les dialogues, je regarde les images, mais surtout, j'attends d'arriver dans le film. J'attends qu'on me voie à l'écran. Je m'attends. Et puis, vers le milieu du film, j'apparais. Enfin, c'est pas trop tôt. Je marche dans la forêt avec les autres garçons. Merde, c'est horrible. C'est pas comme je pensais. J'aime pas ma tête et mon corps non plus. Oula, les garçons du film, ils sont beaux. Ils ont des muscles, les pectoraux. Et moi, sous mon t-shirt, on dirait que j'ai des seins. J'ai envie de me cacher sous mon siège. J'ai envie de pas exister. Heureusement, il y a la scène avec les petits Suisses quand on se rencontre avec Devers et Depardieu. Et là, ça va mieux. Tout à coup, mon voisin de fauteuil s'aperçoit que c'est moi à côté de lui. Et il se met à me regarder, moi, au lieu de regarder l'écran. Et ça me gêne un peu. Dommage que ce soit pas Déborah, la copine de ma sœur. Ça m'aurait pas gêné. Plus tard, il y a les scènes dans la chambre avec Carole Laure, quand elle enlève sa chemise de nuit. Et là, j'ai vraiment peur. Est-ce que ça va se voir? Je me concentre à mort sur mon pantalon de pyjama pour voir si on remarque la bosse au milieu. Je suis sûr que ça va se voir, qu'on ne va voir que ça. Moi, en tout cas, je la vois.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Voilà un extrait de La Vedette du quartier de Riton Liman, qui était la vedette enfantine de Préparez vos mouchoirs, avec donc Carole Laure, Devers, Depardieu, et qui se voit à l'écran, comme ça, une espèce de révélation, Bertrand Burgala. C'est vraiment un moment, c'est vrai, assez extraordinaire.
Il y a plein de moments.
J'en ai pris un.
Ouais, mais il est formidable, mais tout est vraiment. Moi, il y a une scène que je trouve incroyable, c'est qu'après ils font la promotion chez Michel Drucker, et à côté, la loge à côté, il y a Claude François, et il dit oh, Claude François, on était allé le voir avec ma bande à Forest National. Bon, c'était pas génial, c'était moins bien que les Stones qu'ils avaient vu un peu avant, mais il y avait une petite scène à côté avec un micro. Et elle était pas éclairée, donc on est allé, on a coupé le micro et on l'a pris parce qu'on va faire un groupe de rock. Il dit après l'entracte, Claude François recommence et là c'était le téléphone pleure et en fait ils se rendent compte que la petite scène c'était à côté, c'était pour la petite fille qui allait lui donner la réplique. Et elle peut plus chanter puisqu'il y a plus de micro. Il dit on voit qu'il était quand même embêté. Et il se retrouve des années plus tard galérant chez Gérard Louvain sur le bateau de Gérard Louvain parce que il y a un personnage assez formidable dans le livre aussi, c'est Florent Pagny et qu'on voit dans toute son humanité qui est vraiment très sympathique. Et donc, sur le bateau de Gérard Louvain, un peu pour briller, il raconte cette anecdote. Et là, Louvain, il dit « Ouais, ben, je me souviens très bien de cette soirée parce que j'étais le producteur de Claude François et Claude m'a viré définitivement ce soir-là et j'ai dormi pendant 2 ans dans une voiture. » Donc, tout est comme ça. Et ce que je trouve beau, c'est que c'est pas l'itinéraire. Il le raconte très bien. Mais vraiment, c'est... En fait, toutes les vies sont intéressantes. En fait, tu fais très peu, en revanche, j'ai vu un romancier, là, qui a fait un truc sur son papa après nous avoir fait plein de... Tu fais pas trop ces trucs-là.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, le champ de mes détestations est assez vaste et on peut y mettre ce type de texte dedans, oui. Mais, en fait, voilà, avec Séguier, c'est la chance de ne pas avoir de fil à la patte et dans le fil à la patte, on peut y mettre les prescriptions de marché, l'air du temps, les attentes des uns et des autres, les thèmes homologués, etc. Et donc, le fait d'en être débarrassé, bah, ça donne ce petit espace de liberté.
Séguier, éditeur de Curiosité.
Mes amis font l'amour, mes amis dorment seuls, mes amis disent des choses, mes amis les oublient. Tour à tour, mes amis réussissent, mes amis sont perdus, mes amis se suicident. Mes amis se marient. Tour à tour. Mes amis font n'importe quoi. Mais sans moi.
Oui, alors je suis très content d'entendre Daniel Darc.
On est content.
Une référence en plus cette chanson à un film que j'adore, À bout de souffle. Où il y a cette référence, il y a Maurice Ronet qui parle avec Jeanne Moreau et elle dit mes amis sont formidables et lui il réplique tout ça et voilà, donc ça avait inspiré Daniel Darc pour cette chanson. Et parlant d'amitié, je vais vous citer je vais donc parler de Jacques Esprit, mais et de pour qui a écrit donc qui a écrit la fausseté des vertus humaines, donc un janséniste, on l'a vu tout à l'heure. Alors si Blaise Pascal disait si tous les hommes savaient ce qu'ils disent les uns des autres, il n'y aurait pas quatre amis dans le monde. Bah pour Jacques Esprit, on a l'impression qu'il n'y en a aucun. Alors, c'est un janséniste pur jus, radical. Donc, pour situer très rapidement les jansénistes, il y a une grande querelle pendant le grand siècle, le XVIIe siècle, entre les jansénistes et les jésuites. Et Jacques Esprit fait partie de ces jansénistes qui pensent que, en fait, hors de Dieu, point de salut, c'est que là, on n'a pas de libre arbitre. Et que finalement, toutes nos vertus dites humaines ne sont pas du tout bonnes, elles sont toutes à jeter. Et donc voilà. Donc, alors, pareil, il a raté une marche parce que finalement, en 1678, paraissent, donc c'est. Cette, de manière posthume, la fausseté des vertus humaines, et aussi les maximes de la marquise de Sablé qui le protégeait, une précieuse devenue janséniste, parce que c'était radical chic d'être janséniste à l'époque. Et finalement, ces deux livres de maximes n'ont pas, et de ce traité des fausses vertus n'ont pas été retenus par l'histoire, sauf La Rochefoucauld, qui lui était aussi un ami, mais c'est lui la star, en fait. Mais Jacques Esprit, si on replonge dans Grâce à vous, donc Jean Le Gall, puisque vous rééditiez cette édition moderne qui a été déjà étudiée chez Aubier avec une préface très très intéressante et très claire et très élégante de Pascal Quignard. Donc on voit vraiment qu'il démonte tout en fait. Par exemple, la pitié, qu'est-ce que c'est ? La pitié, c'est juste de la self-pity finalement. Il cite alors pour dire Aristote.
Mais
dit
c'est
la pitié.
Sur soi qu'on pleure.
Bah, bien sûr, c'est une douleur que nous sentons, des disgrâces, des afflictions qui arrivent aux autres dans la créance que nous avons, qu'elles pourront quelque jour nous arriver à nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est quand il s'appuie sur les... Mais sinon, il démonte aussi les anciens. C'est-à-dire que l'amitié, justement, par exemple, Sénèque, il va dire que Sénèque, il dit n'importe quoi sur l'amitié. Il dit quand on peut sacrifier, on pourrait mourir pour son ami. Il dit que, de toute façon, cette thèse est complètement oiseuse. Je le cite Jacques Esprit, « Je supplie toutes les personnes qui ont tant soit peu connaissance du cœur humain de dire si jamais une amitié de cette nature a pris naissance et s'il est possible qu'un homme fasse le plan d'une amitié qui lui fait ardemment souhaiter de se dépouiller de son bien, de sacrifier sa vie et de se charger des malheurs d'autrui. » Donc, en fait, même l'amitié qui est quand même, même chez les plus sceptiques, les plus pessimistes, en fait, réservée encore comme une espèce de vertu humaine, il n'y a pas de salut hors de Dieu, finalement. Donc, c'est un vraiment radical. C'est un janséniste radical.
Jean Le Gall, il y a aussi dans le catalogue Séguier, on ne va pas tout lire, tout dire, tout ce qu'il y a, mais il faut absolument aller sur le site de la maison Séguier et vous dépouiller un par un tous les titres. À chaque fois, vous avez l'occasion, comme ça, de découvrir une espèce d'ouverture, un corridor, une sorte de cache tout à fait précieuse. Mais il y a le dossier médical psychiatrique d'Antonin Artaud, un gros livre de 500 pages. Et puis il y a ce livre que je vénère de Cédric Bru, Le mystère Yves Adrien. C'est un des grands fantasmes qu'on a à Mauvais Genre, c'est d'un jour pouvoir interviewer Yves Adrien. Mais bon, c'est bien d'avoir comme ça un horizon théologico-historique. Voilà. Donc Yves Adrien, qui est un mythe, une légende de la rock critique française, qui a organisé méticuleusement son occultation, sa disparition, on sait quand même un peu où il est. Pas comme tellement l'a croisé un jour par hasard. Mais voilà, et le mystère Yves Adrien renvoie, je sais pas, j'ai l'impression que ça renvoie aussi à une forme ultra contemporaine de jansénisme. Tous ces hommes qui se, vous savez, c'est un peu le côté Alceste dans le Misanthrope, un lieu où être homme d'honneur, on est la liberté. On a l'impression qu'Yves Adrien, après les jansénistes de Port-Royal, cherche une espèce de retraite, comme ça. Et il y a pas ça aussi chez Séguier, cette idée, mais après tout, il faut une retraite, il faut un lieu, comme ça. Que ce soit une piscine à Malibu.
Oui, je pense que c'est le destin de quelques artistes de mener à bien un vœu de déréliction, de se retirer, de connaître l'exil, le refuge. Maintenant, tout à l'heure, quand Sean lisait des passages de Jacques Esprit, si on réédite Jacques Esprit, c'est parce que le commerce des vertus
disons, des valeurs ne s'est jamais si bien portée. Connaissez-vous une entreprise qui n'utilise pas ses engagements, ses valeurs, etc., pour vendre son yaourt, sa lessive, etc.
Mais le mot vertueux est devenu un peu...
Puis surtout, il est annoncé, jamais démontré. Et donc voilà, c'est parce que ce texte correspond, il me semblait, à une nécessité de le présenter au plus grand nombre, que j'avais envie de rééditer ce précis de démoralisation massive.
Oui, voilà. C'est vraiment un feel bad, c'est pas un feel good.
Exactement.
Ça, c'est vraiment quelque chose. Et là où vous êtes, je pense que aussi un mot qui pourrait convenir à Séguier, c'est vous êtes des éditions intempestives. Vous parliez de mémoire alors qu'on est à l'âge du swipe et qu'on a oublié, on a une mémoire même pas de poisson rouge. Et ensuite, c'est sûr que le retrait, c'est le contraire du selfie et du post sur Instagram. Donc en fait, on est dans les deux attitudes et le style qui est celui du retrait et aussi d'une cesse de mémoire.
Mais tous les hommes d'aujourd'hui ne peuvent pas supporter la solitude. Quand je dis les hommes, bien sûr, c'est à travers le terme générique. Je veux dire, je suis persuadé que la solitude de quelques minutes est douloureuse pour beaucoup. Et donc, on s'adresse à des gens qui... généralement, on le livre près d'eux, le livre en général, le livre parfois pour meilleur ami, une bibliothèque. Voilà, oui, c'est... Il y a d'un côté, vous savez, aujourd'hui, il y a une masse majoritaire de dirigeants qui sont devenus des philistins, et puis il y en a d'autres, en haut, en bas, et c'est pas une question de classe sociale, mais qui continuent à s'intéresser aux œuvres au sens très large, et c'est à eux que je m'adresse, naturellement.
Parlons des derniers titres publiés par Séguier, Jean Le Gall, Werner Herzog, John Galliano, Eddie Lamarr, Monica Vitti. Qu'est-ce qu'on peut... Là.
Alors, c'est pas un livre de John Galliano, je corrige, c'est un texte formidable de Dana Thomas qui raconte la chute de deux couturiers qui étaient John Galliano et Alexander McQueen. Et qui raconte comment, ça fait le lien avec ce que nous évoquions à l'instant, comment une industrie, la mode, a quitté peu à peu... le génie du dessin, de l'artisanat, pour se tourner vers un business de très grande massification. Et cela n'a été possible que grâce à une période charnière, qui est celle des années 90, où de véritables artistes se sont consumés dans leur travail pour que la valeur des marques puisse devenir un logo extrêmement rentable. Vous devinerez qu'avec ce genre d'informations, je vous prive peut-être d'un annonceur décisif pour la radio. Mais... voilà, ce livre-là est un livre formidable de courage. Il est signé donc d'Anna Thomas.
Et puis le Werner Herzog, qui est quand même un grand moment. Les mémoires de Werner Herzog, moi j'ai eu la chance de pouvoir animer un débat avec lui autour de ce livre. C'est quand même quelque chose de rencontrer Werner Herzog, qui commence par vous dire que ses films n'ont strictement aucun intérêt, que c'est d'abord et avant tout un écrivain, et que ses mémoires comptent plus que tout. Et oui, effectivement, on peut peut-être avoir un peu de restriction, mais c'est vrai que c'est les mémoires extraordinaires.
C'est le deuxième texte que nous publions de Werner Herzog, puisqu'on avait publié également ce texte qui était une sorte de... Enfin, il avait fictionnalisé l'histoire d'Onoda, ce soldat japonais qui ne sait pas que la guerre est terminée et qui continue à mener la sienne. Un Herzog, on ne le découvre pas avec ce livre, mais en revanche, oui, je crois qu'il a raison sur un point, c'est qu'on le découvre écrivain.
Notre hamburger là, c'est vous là.
Oui, c'est une musique pour une cinéaste qui est aussi écrivain, comme Werner Herzog. C'est pour le premier film d'Eva Ionesco, My Little Princess. Et je pense que c'est la scène de ce film.
Chronique finale dans Mauvais Genre, ce soir avec vous Esther Teilhard, le livre de Mathieu Peck paru chez Gallimard.
Chers auditeurs de Mauvais Genre, ce soir un nouveau roman, en effet tout juste paru chez Gallimard, Descente à Baïa de l'écrivain Mathieu Peck. Je n'emprunterai aucun chemin de traverse, c'est un beau roman que je vous encourage à découvrir, tenu sous la forme d'un journal, et Mauvais Genre, j'en suis convaincue, rien de plus gracieux, de plus pudique qu'une confession intime. Le narrateur de Descente à Baïa, Martin, journaliste parisien, est envoyé au Brésil pour une mission nouvelle, chroniquer le quotidien de l'artiste Paul Taburet en création à Baïa. Salvador de Baïa est une ville d'errance et de texture, aussi chaste que dévergondée. Martin est gagné par la fièvre de celle qu'on surnomme la Rome noire. Tout l'amène à se perdre. La ville, évidemment, ses promesses de couleurs, la trace insoutenable du passé, le peintre, son talent, ses gestes quotidiens, ses toiles couchées au sol, le marché et les rites, les prêtres gantés de blanc. C'est un récit ivre qui pourtant ne se débauche pas. Si parfois arrosé de vices, encore chauffé par la vertu. En lisant Peck, j'ai vu les arlequins froids des tableaux de Kirchner, la trace fiévreuse de la vocation de saint Matthieu. J'ai pensé aux confessions de saint Augustin, cette confession particulière. J'ai tardé à t'aimer, beauté si ancienne et si neuve, j'ai tardé à t'aimer. Martin aime-t-il enfin ici à Baïa? Je crois. Il aime les troubles relations qu'engagent les alcools mélangés, la prude proximité qui lie les hommes talentueux, le peintre et l'écrivain, le désordre. Oui, vraiment, un goût certain pour le désordre. J'aime Descente à Baïa pour les phrases de Martin le dimanche soir. Celle-ci, par exemple. Perdre est un mot magnifique. Perdre sur une terre aux trop charnelles corruptions, perdre sur l'ivresse qui toujours conquiert l'homme, perdre un amour, la trace d'une Solange en mémoire. Écrire sur la peinture, s'immiscer dans un atelier où la boue colorée devient soudain figure, mouvement, grandeur, peut-être est-ce aussi toujours perdre. Sa peau d'homme ordonnée, costumée et bien mis. Sombrer dans la folie, passer ivre à temps plein, devenir clairvoyant, habité. J'ai aimé Descente à Baïa pour sa couleur souveraine, sa violence évidente, la bizarrerie du lien entre Martin et le peintre, la sensation, collante, très chaude, d'être ému par un roman. Descente à Baïa de Mathieu Peck chez Gallimard, actuellement en librairie.
Merci Esther. Prochain disque, prochain événement, Bertrand Burgala.
Oh, je viens de sortir la BO d'une série de Marc Fitoussi dont j'ai fait la musique qui s'appelle Ça c'est Paris. Et je serai en concert à Paris le 12 avril.
Très bien, puis le disque d'Ingrid Cavan.
Et le disque d'Ingrid vient de sortir.
Voilà, voilà un invité potentiel pour Mauvais Genre, Ingrid Cavan, ce qui serait une très bonne chose. Prochain livre chez Séguier, notre invité de ce soir, Jean Le Gall.
Deux textes dans un même livre consacrés à Maurice René. D'abord, les entretiens qu'il avait confié à Hervé Le Boterf. Pendant 2 ou 3 jours avec son ami journaliste, ils se sont saoulés dans la maison de René. Et ça donne un texte totalement débridé, je vous l'assure. Et puis, c'est complété d'une biographie qu'avait écrite, qui est une réédition, Jean-Pierre Montal, consacrée donc à Maurice René.
Merci, et puis donc on sera attentive à vos productions futures, mais sur Steam, on se quitte avec Paolo Sorrentino, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Élise Leu, Claire Poissignon, Esther Teilhard, Sean Rose, Claire Martin Dugard et François Angelier. Vous remercie d'avoir écouté Mauvais Genre, on se retrouve la semaine prochaine, je serai en compagnie de Philippe Rouillet, Fausto Fazulo, Stéphane Duménildo et Sixtine Audebert, et nous rendrons l'hommage qu'il mérite à David Lynch, en sélectionnant chacun des scènes, des extraits. Chacun composera sa mémoire de Lynch. C'est la semaine prochaine dans Mauvais Genre. Merci d'avoir suivi cette émission.